Retrouvez vite La France Bouge avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Europe 1, La France Bouge, Carole Ferry, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans La France Bouge, l'émission résolument positive qui met en avant celles et ceux qui font bouger la France. Un petit bol d'optimisme au programme avec à mes côtés Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Carole Ferry, bonjour à toutes et à tous. Alors un petit bol d'optimisme et un petit ouf de soulagement du côté de la montagne. On est loin des taux de remplissage habituels, bien sûr, mais c'est pas non plus la saison blanche annoncée. Il y a même un boom pour de nombreuses activités comme le ski de fond ou les raquettes. Allez tiens, nous justement, on se chausse et on part en station jusqu'à 14h avec le directeur général de France Montagne qui rassemble toutes les stations de France, de tous les massifs de France.
Et parmi les activités qui connaissent un vrai boom, le biathlon, porté par les performances des athlètes français, ce sport rencontre un véritable succès depuis quelques années. C'est encore plus vrai cet hiver avec la fermeture des remontées mécaniques et ça profite à l'entreprise Kiwi Précision, spécialisée dans les carabines laser. Son fondateur sera avec nous.
Alors s'il y a bien une tradition au ski, ce sont les monitrices et les moniteurs de l'ESF, l'école du ski français, et ce sera notre saga du jour aux alentours de 13h30.
Et puis les trophées Europe 1 La France Bouge, chaque jour un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, la marque en moins des produits ménagers sans substances nocives ni plastique, lancée par des anciens de la grande distribution, lassés de l'envers du décor.
Et enfin, demain au travail avec cette question, comment remotiver ses salariés au bout du rouleau ? EasyBlue, qui est une start-up et qui propose des assurances en ligne pour les entrepreneurs, a en partie trouvé la réponse. Et cette réponse, on l'aura tous ensemble aux alentours de 13h50.
Bienvenue dans La France Bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, bien sûr qu'elle bouge encore, cette France. Alors, à défaut de pouvoir normalement dévaler les pistes et les pentes, les stations ont dû se réinventer. On en parle avec notre grand témoin du jour.
Et notre grand témoin du jour, c'est vous, Jean-Marc Silva. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes le directeur de France Montagne, c'est l'association qui regroupe donc toutes les stations de ski de tous les massifs. Les vacances de février sont terminées pour les Parisiens, mais ça continue pour la zone B. Alors, on avait parlé d'une possible saison blanche. Finalement, il y a quand même un peu de monde en montagne. On peut parler quoi d'un petit ouf de soulagement ?
Oui, alors la montagne a attiré, malgré la fermeture des remontées mécaniques, bien sûr qu'on déplore parce qu'on est triste de ne pas pouvoir offrir ce service à nos clients. Et en même temps, on a constaté que les clients avaient besoin de grands espaces, envie de montagne. Et aujourd'hui, on a à peu près les premiers chiffres de ces vacances, puisqu'on sort à peu près 35% de remplissage sur ces vacances d'hiver. Donc on n'est pas sur une saison blanche. Et on voit que les clients qui repartent, mais ils ont le sourire. Les montagnards ont su les accueillir, ont su les rendre heureux, parce que je crois que les Français en ont besoin. Alors pas de clientèle internationale, bien sûr, pas de ski alpin, mais on a pu glisser avec le ski de fond, avec le ski de randonnée, avec le ski de jogging.
On va en parler, vous avez fait plein, voilà. Vous avez proposé
beaucoup
plein, d'activités.
Beaucoup d'initiatives.
Vous nous parlez d'un taux de remplissage là, aux alentours de 35%. Je crois que ça a été notamment très bon et largement meilleur qu'escompté pour les vacances des Parisiens et que ça se présente bien là pour les dernières zones.
Alors ça s'est beaucoup joué aussi en dernière minute parce que les annonces du gouvernement, nous ne savions pas s'il y allait avoir confinement ou pas de confinement. Donc c'est vrai que dès que les Français ont pu voir qu'il y avait des possibilités, c'est vrai que ça s'est remis à réserver et on n'est plus dans la dernière minute, on est presque dans la dernière seconde. Alors après, on n'a pas tout le parc, malheureusement, puisque certains hébergeurs n'ont pas pu ouvrir parce qu'on n'a pas de restaurant pour certains village clubs. Mais les Français qui ont choisi la montagne ont bien fait.
Alors quels sont les domaines qui ont le mieux fonctionné ?
Alors, il y a cette attractivité de la montagne qui dure et qui est bien là. Plus vous êtes, une station village et une station de montagne...
Moyenne
montagne, ou vraiment typiquement village de montagne, plus vous avez eu de remplissage, parce que ce sont des stations qui n'ont traditionnellement pas de clientèle internationale. Et là, elles sont 28% de la clientèle totale à ne pas être présente. Et puis, c'est vrai que les stations d'altitude ont plutôt une clientèle sportive, parce qu'on a une garantie neige. Mais en même temps, c'est souvent elles qui ont le plus de moyens pour lancer des activités, lancer des événements. Donc c'est vrai que les stations village ont plutôt mieux fonctionné.
Mais est-ce que les Pyrénées, les Vosges, le Jura, qu'est-ce qu'il y a La Savoie, que vous connaissez bien.
Oui, alors tout ça dépend aussi de l'enneigement, puisqu'on a très peu parlé cet hiver, alors que la neige était très présente.
Il a fait tellement beau.
Il fait un temps incroyable, c'est très anticyclonique. Mais tous les massifs sont différents par rapport à l'enneigement. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir...
Mais je crois que par exemple dans les Vosges, il y a certaines stations familiales où on était à 100% de remplissage. J'exagère ?
Oui. Non, il y a eu très bonne fréquentation. Alors les gens ne viennent pas pour le ski. Et on a constaté aussi cette année des néo-montagnards, des nouveaux venus qu'on a réussi à attirer et qu'on espère bien fidéliser quand nos remontées mécaniques vont pouvoir réouvrir, parce que ça c'est important.
Sont venus justement parce qu'ils se disaient il n'y a pas de ski, j'aurais pas le risque d'avoir quelqu'un qui me rentre dedans, je vais pouvoir profiter d'une station avec moins de monde.
Non, je crois que ce qui a vraiment attiré, c'est le côté grands espaces, l'aspect anti-anxiogène de nos montagnes qui a joué la carte, et puis tout ce qu'on peut proposer, tous les services. Alors nous on est malheureux de ne pas pouvoir offrir tous les services, mais vraiment les socioprofessionnels se sont mobilisés.
Mais est-ce que ces néo-touristes ne sont pas venus aussi tout simplement parce que pour une fois, on ne se coupait pas un bras en venant au ski ? Les locations étaient beaucoup moins chères. Et puis surtout, ce qui coûte cher au ski, c'est de prendre
le
forfait, plus également la location de ski et autres.
Attention, là, il faut tordre le cou à cette idée reçue, puisque la diversité des stations en France, nous avons 320 stations sur 6 massifs, et ce serait une erreur que de dire... le ski est trop cher. Le prix moyen d'un séjour, tout compris, c'est 1 500 € en moyenne toute saison. Voilà, pour une base 4 personnes. Donc après, quelle que soit la...
Mais beaucoup ont peut-être cette idée reçue, et malgré tout, là, se disait, je vais avoir une location qui va être moins chère, et puis je ne vais pas avoir cette dépense obligatoire. Parce que si on vient au ski, quand même, la plupart du temps, et vous le dites très bien, c'est quand même pour inscrire les uns... au cours de ski, les autres, les remontées mécaniques, etc. etc. Donc c'est vrai que ça pouvait faire venir des gens qui allaient dépenser de facto moins de sous.
Oui, alors c'est vrai que ça ouvre aussi à une nouvelle clientèle. Après, les gens se rendent compte aussi que les services qu'on peut proposer sont intéressants. Et tous ceux qui ont fait du ski de randonnée ou du ski de fond, je pense que beaucoup rechigneront peut-être moins à payer le forfait. Parce que la montée, il fallait la faire.
On dit qu'il y avait quand même du monde, mais vous avez quand même une baisse du chiffre d'affaires de 90%,
oui.
C'est ça ?
Oui.
Ça veut dire que rien ne remplace les remontées mécaniques ?
Alors, c'est la complexité de la montagne et du modèle économique aujourd'hui, notre modèle économique qui est axé sur le ski, heureusement, parce que c'est un système vertueux qui fonctionne bien. Et on voit quand on enlève le ski, qui ne pèse entre guillemets que 15 à 17% du prix du panier moyen du skieur, finalement l'économie ne fonctionne pas.
Ouais.
Donc il va falloir pousser les saisons, aller plus loin, fidéliser, inciter les gens à redécouvrir aussi leur montagne. Mais on a besoin effectivement de cette économie du ski alpin, parce qu'elle elle crée l'investissement et la dynamique de la montagne.
Jean-Marc Silva, vous êtes donc le directeur général de France Montagne. Nous vous gardons avec nous jusqu'à 14h. Vous êtes notre grand témoin du jour.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
On a un très très grand soleil, on a un petit peu moins chaud aujourd'hui, y compris à Paris. On est presque au ski finalement, il nous manque juste un petit vin chaud, surtout qu'on l'entend. C'est une saison très particulière, mais un peu moins mauvaise que prévu, le vin chaud avec modération bien évidemment. On en parle en tout cas de tout cela aujourd'hui avec notre grand témoin Jean-Marc Silva, qui est le directeur général de France Montagne.
Et avec vous David Thiévan, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes le co-créateur de Kiwi Précision, donc c'est une carabine laser made in France pour le biathlon. Alors je ne sais pas si on la voit sur internet, mais enfin,
en tout cas,
vous nous l'avez apporté
pour sur europe1.fr,
voilà. Kiwi existe depuis 2011, vous êtes basé en Chartreuse, au-dessus de Grenoble. Vous avez toujours été pratiquant, vous, de ski nordique, vous avez même fait quelques courses académiques. Je crois que le déclic pour Kiwi Précision est venu pour les JO de Turin, c'était en 2006. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Eh ben, 2006, c'est Zanat San Sicario, la France a été médaillée en relais avec l'équipe masculine, avec des noms comme Vincent Defrane, Raphaël Poiré.
Et Raphaël Poiré, avec qui vous avez couru, vous, un peu hein.
Voilà, en course académique, en effet. Et Raphaël nous a présenté la présidente de son comité de soutien France-Norvège, son fan club. À l'époque, il était avec Liv Grete Poiré. Ils avaient un fan club franco-norvégien. Et les Norvégiens nous informent que les jeunes Norvégiens font du biathlon dès l'âge de 5 ans avec du light biathlon. Et de là, on a raisonné, on est arrivé sur du laser biathlon. biathlon.
Votre carabine, elle peut être utilisée par des enfants dès 5 ans ?
Exactement, c'est l'objet de cette carabine, c'est de permettre l'accès aux vertus du biathlon, et on pourra en parler après si vous le souhaitez, aux vertus du biathlon dès l'âge de 5 ans, sans risque.
Alors justement, dites-nous comment elle fonctionne. Je l'ai juste à côté de moi, je le disais là avec Carole, ceux qui veulent regarder sur europe1.fr, vous pouvez même écouter ou nous regarder comme ça chaque jour sur le site Europe 1 en direct. Elle est quand même assez imposante, elle est en bois, elle est très 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 jolie. Mais comment ça fonctionne concrètement ?
Eh ben, concrètement, on a voulu faire vraiment un produit qui reprend vraiment le code couleur, le code de la pratique, le code gestuel. On retrouve le code de forme, on retrouve tout le code du biathlon pour faire comme si, mais sans avoir le danger que présente le biathlon que vous voyez à la télé, c'est des armes à feu dangereuses de 22 longs rifles.
Alors ma question va sûrement être idiote, mais je l'assume. On est quand même bon au biathlon. Des fois ça arrive. Mais on est bon au biathlon depuis des années. Il y avait un seul fabricant, je crois, en Allemagne. Pourquoi on n'a pas eu l'idée plus rapidement, nous en France, de nous équiper de ce genre de choses ? Il fallait qu'aussi le public arrive pour que vous soyez intéressé d'un point de vue purement économique ?
Nous, c'était avant tout, avant de vendre de la carabine, on a voulu créer un système qui permette l'accès fiable au biathlon pour tous. Et notre projet est parti en effet des Jeux de Turin 2006. Et après, on a fait des expérimentations avec l'éducation nationale. Et aujourd'hui, le laser biathlon, il y a des épreuves au baccalauréat qui se pratiquent. Il y a une forte pratique aussi en montagne sur les disciplines alternatives dont on parle depuis tout à l'heure, mais aussi dans le milieu de l'éducation
nationale. Vous
fournissez
un 100% de l'éducation nationale, je crois, est équipé pour ceux qui passent le bac de vos carabines.
Voilà, exactement, sur la France, pour ceux qui sont équipés, oui, tout à fait.
Et alors, elle est très ludique, parce que quand le laser sort de la carabine, ça fait du bruit, et apparemment, ça plaît beaucoup aux enfants. Il n'y a pas...
Ah, il y a un petit code dans le...
On vous a parlé d'un bruit de sabre laser.
D'un petit sabre laser. On pourrait l'entendre. Il faut me la faire passer, puis je vous ferai écouter au micro ce bruit-là. Et en effet, on a voulu vraiment avoir ce côté ludique pour les jeunes. Et si vous savez, au niveau de l'éducation nationale, il y a des gros programmes de recherche qui se font sur l'apport que peut avoir le biathlon sur la capacité des jeunes à se concentrer. Ces jeunes qui sont absolument absorbés régulièrement par leurs écrans. Et là, le biathlon, les vertus du biathlon, c'est être capable de gérer son effort, son efficacité face à ses cibles. Mais en situation d'effort, il faut qu'on bloque la respiration, il faut qu'on vise, il faut qu'on déclenche le doigt. Il y a énormément de choses à faire. Et ça, pour les jeunes et le monde de l'éducation nationale, et pour les gens aussi qui viennent en station, venez faire cette expérience-là. L'expérience du biathlon, elle est magique.
Alors, ça fait quelques années qu'il y a un petit boom du biathlon en France. Mais alors cette année, vu qu'il n'y avait pas de remontée mécanique, c'est que toutes les stations s'y sont mises.
Nous, en effet, on a eu une demande, on a un gros parc de location, et je fais un clin d'œil aux équipes Kiwi qui doivent nous écouter en ce moment en Chartreuse et à Grenoble. Le boom, la demande du parc de location a explosé, les ventes ont aussi augmenté, on a fait quasiment plus 20%. Et voilà, pour répondre aussi à cette demande, parce que comme je vous le disais, de venir faire cette expérience du biathlon, c'est expérimenter des choses en situation moderne et qui correspondent aussi au fonctionnement de notre vie moderne où tout va si vite aujourd'hui, on fait les choses très vite, il faut rester efficace face à nos cibles, et c'est le biathlon.
Mais elle est très technologique d'une certaine manière, cette carabine, elle vaut 1 500 euros je crois pièce. Vous avez réussi à équiper, à répondre à la demande, puisque vous-même vous avez appris au tout dernier moment que les remontées n'allaient pas fonctionner, on ne pouvait pas prédire que ça allait augmenter à ce point-là. Vous avez réussi à répondre à la demande ?
Encore un grand clin d'œil aux équipes qui ont réussi à se mobiliser. On a aussi embauché, on avait anticipé une augmentation, une croissance qu'on a accélérée, nos fournisseurs et nos assembleurs et les équipes qui...
Vous avez réussi à répondre à la demande, à peu près ?
On a réussi à répondre à la demande. Il n'y a que quelques stations dont on a prêté du matériel mais la majorité des demandes des stations françaises ont pu être honorées, quoi.
Jean-Marc Silva, donc vous êtes le directeur général de France Montagne. Le biathlon, vous l'avez vu vraiment exploser cette année dans les stations. On l'a vu toutes les familles le font ensemble, c'est des équipes de familles.
Oui, ça rend vraiment le ski nordique ludique, c'est un sport très télégénique hein, qui attire, donc c'était très important de développer effectivement pour notamment une clientèle jeune. Et puis voilà, ça c'est un sport, c'est pas facile. Hein.
C'est ce que j'allais vous demander parce que c'est quand même très 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 compliqué quand
on va
regarde.
Peut-être rappeler d'ailleurs un petit peu.
C'est extrêmement compliqué le ski nordique, donc c'est pas, on s'improvise pas athlète de biathlon en deux secondes quoi.
Voilà, et c'est pour ça que cette activité aujourd'hui, je pense qu'elle intéresse beaucoup de monde parce qu'il y a le côté nordique, ce qui est quand même un sport à part entière, puis le côté tir à la carabine, le combiné des deux fait quelque chose de très très attractif, une double compétition familiale, et nous ça nous permet, quand on fait la promotion de la montagne française, de proposer du biathlon laser à Londres, à Bruxelles, à Amsterdam, à Paris, en pleine ville, quand on fait des animations.
David Thiévan, vous avez réussi à l'armer, on peut écouter
Allez, on écoute, on fait un petit tir.
Ah oui, on a entendu quand même le sabre laser.
Merci David Thiévan, je vous rappelle que donc, vous êtes le co-créateur de Kiwi Précision, une carabine laser pour le biathlon.
Et Jean-Marc Silva, le directeur général de France Montagne, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui, vous restez avec nous jusqu'à 14h.
La France bouge continue avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Allez, on vous emmène donc au ski aujourd'hui avec notre grand témoin du jour, Jean-Marc Silva. C'est le directeur général de France Montagne. Je vous rappelle, France Montagne, c'est l'association qui gère toutes les stations de montagne. On a entendu tout à l'heure 320 stations de tous les massifs de France. Ça va vraiment des Pyrénées jusqu'aux Vosges. Alors, si on veut regarder le verre à moitié plein, c'est ce qu'on essaye de faire quand même depuis le début de cette émission. Et on le voit là avec le biathlon, c'est que cette période montre une certaine résilience du monde du ski. C'est incroyable la façon dont finalement les stations ont dû ou se sont réinventées
très
en
vite.
L'espace de 3 semaines.
Oui, alors je crois que c'est le propre des montagnards, hein, c'est de s'adapter systématiquement. Et effectivement, aujourd'hui, tous les socioprofessionnels, les moniteurs de ski, les guides haute montagne, les accompagnateurs de moyenne montagne, les moniteurs cyclistes de France, tout le monde s'est adapté pour offrir du plaisir à la clientèle, même si effectivement, on ne fera pas le chiffre d'affaires qu'on a voulu, mais il y a une vraie volonté d'être bienveillant, de s'occuper de nos clients.
Racontez-nous un petit peu tout ce qui a été mis en place. Il y a eu le chien de traîneau, on connaissait déjà, mais enfin là, ça a été un vrai boom. Il y a le ski derrière un cheval, le ski de joring, le poney luge, le ski de randonnée, la plongée sous glace. Est-ce que vous pouvez nous parler de toutes ces activités, certaines qui existaient déjà et d'autres qui ont été vraiment mises en place cette année?
Oui, alors il faut savoir que beaucoup d'activités existaient déjà, mais qui effectivement étaient autour du ski. Alors cette année, comme pas de remontée mécanique, les gens vivent l'expérience, c'est l'année du pourquoi pas, je vais essayer, et finalement ils se rendent compte que c'est avec beaucoup de bonheur qu'ils pratiquent toutes ces activités. Il y en a quand même 50 en hiver et 80 en été, qu'on pratique de jour comme de nuit.
Alors, je rappelle que vous êtes le directeur général de France Montagne. Du coup, vous allez conseiller aux stations de monter en puissance, même quand les stations vont vraiment rouvrir, de garder ces activités, parce que les gens les ont découvertes. Et pour certains, ce n'est peut-être pas que des palliatifs.
Oui, je pense qu'il y a un vrai intérêt. De toute façon, c'est la grande montagne, ça sera le grand gagnant, ça sera la montagne au sens large. Donc, avec ce modèle économique indispensable qui est le ski, mais je crois que c'est important de montrer notre capacité de nous diversifier autour du ski. Et cette année, plus que jamais, alors des innovations qu'on avait peut-être jamais vu, le ice floating.
Alors allez-y, racontez-nous.
Alors ice floating, ça nous vient tout droit de Finlande et vous pouvez pratiquer ça à Valseni-Wattignies. Vous allez vous relaxer dans une eau à 5 degrés avec une combinaison étanche.
Vraiment, on se relaxe ?
Bien sûr. D'autant plus qu'on a une combinaison, donc ça vient compléter la plongée sous glace. On a aussi l'arrivée, qui est une spécialité vosgienne, qu'on peut faire aussi au menhir, c'est la sylvothérapie. Donc le bienfait de la forêt, on appelle ça aussi le shirinyoku, hein, c'est le bain de forêt qu'on peut pratiquer à Morzine.
Mais c'est quoi, on se met dans la neige en pleine forêt, c'est
ça ? On va faire des hugs aux arbres, on va profiter de cette énergie, on va écouter les arbres vivre. Et les accompagnateurs en montagne sont vraiment des spécialistes de la nature, hein, qui vont nous emmener. Et je crois que les clients aujourd'hui, avec les guides, avec les moniteurs, ils ont envie de comprendre la montagne. Parce que la grande différence cette année, c'est que nous ne sommes pas dans une station de sport d'hiver, nous sommes en montagne, nous ne sommes pas sur un domaine skiable.
Ça nous permet quoi ? De sortir d'un tourisme de masse pour aller vers un tourisme d'expérience ?
Alors on voit que le tourisme évolue vers du voyage. un voyage d'expérience, effectivement. Et cette notion de montagne, elle est importante parce qu'elle ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Il faut l'acquérir. Et c'est vrai que la transmission avec les moniteurs, les guides, les accompagnateurs, elle est importante. Et nos clients ont envie de comprendre ce territoire et de l'apprendre parce qu'ils l'aiment.
Qu'est-ce qui a le mieux marché? Je crois que le ski de fond, par exemple, avait fait sa saison, le chiffre d'affaires de l'an dernier en quelques semaines.
Alors, c'est la station phare du massif du Jura, hein, bien sûr. Hein, premier massif en Europe. Plus de 1000 km de pistes de ski de fond dans le Jura et dans beaucoup, beaucoup de stations. Ils vont doubler leur chiffre
d'affaires.
Mais
c'est 1%? Voilà. Du chiffre d'affaires
alors,
des stations.
Voilà, des remontées mécaniques. Alors, ouais. On va passer de 1 à 2%, mais en même temps, ça redonne aussi le goût de l'effort aux gens, parce que le ski nordique, ça s'apprend. C'est pas de la marche à pied, et c'est une très belle glisse qui demande un petit peu de technique, et on se fait plaisir quand on a un peu cette technique. Donc voilà, n'hésitez pas à passer avec un professionnel pour vous faire plaisir.
Alors justement, Jean-Marc Silva, chaque jour dans La France Bouge, nous nous arrêtons sur une entreprise, une marque française qui a traversé les générations, résisté aux crises. Et bien aujourd'hui, nous avons choisi l'un des symboles des vacances au ski, c'est l'ESF, l'école du ski français, qui a appris, on peut le dire, à skier à des générations entières.
Oui, c'est même, je crois, la plus grande école de ski au monde. Elle existe depuis 1942. Et c'est Dora Nana de l'équipe de La France Bouge qui chausse tout de suite ses skis pour cette saga du jour.
Europe 1, La France Bouge, la saga.
Avec leur combi rouge, ils sont repérables de loin. Impossible de ne pas les reconnaître sur les pistes. Ce sont les moniteurs de l'ESF, l'école de ski français, qui depuis 75 ans enseigne aux petits et grands les joies de la glisse et de la montagne. C'est à la fin des années 30, alors que les premiers champions tricolores commencent à faire parler d'eux, que l'on voit apparaître en France les premières écoles de ski, sous l'impulsion du Premier ministre des Sports, Léo Lagrange. Jean-Marc Simon, directeur général de l'ESF.
Au niveau international, les Autrichiens sont les rois du piquet. Et qu'il y a un Français qui débat. Ce Français s'appelle Émile Allais. Pendant cette période, on peut imaginer que c'était assez tendu. Ça fait du bien au chauvinisme national. Et l'État s'en sert pour faire valoir sa politique en direction de la jeunesse. Et il crée les fondamentaux de l'ESF, à savoir un diplôme du moniteur du ski français. Il crée une méthode du ski français avec l'aide d'Émile Allais. Et puis, il crée également des centres, les écoles du ski français, qui sont géré, piloté sous sa tutelle.
En 1945, le syndicat des moniteurs de ski voit le jour. La profession est naissante, ils sont à peine une centaine et ils enseignent à un public d'adultes passionnés. Ce n'est que dans les années 60-70 que le ski se démocratise, une nouvelle fois, par l'intermédiaire de l'État.
C'est le plan neige de Pompidou, qui voit pour ces territoires de montagne, qui sont quand même pas très riches hein, à l'époque, et qui voit avec le développement du ski, le développement du tourisme, l'aspiration au loisir des Français, une opportunité pour animer ces territoires. Et ce qui a alimenté le ski français, c'était les classes de découverte, les classes de neige. À l'époque, on avait des classes de neige de 3 semaines, quasiment. Les enfants apprenaient réellement à skier, et ils en revenaient, mais complètement piqués, quoi. Ça a été une opération de recrutement énorme.
À la même période vont apparaître les fameuses étoiles, le Saint Graal, devenu synonyme d'une semaine de ski réussi.
Pour les enfants, c'est très symbolique. C'est le début, je veux dire, d'une émancipation. C'est reconnaître une habileté. Et ces étoiles, elles ont, avec le temps, elles ont conservé toute leur valeur, toute leur signification. Et c'est quelque chose auquel aussi on est, comment dire, toujours un peu étonné, un peu ébahi pour ce que ça porte en symbolique, quoi.
Des moniteurs de ski qui sont aujourd'hui 17 000 à enseigner la technique, mais aussi à transmettre leur amour et leur respect de la montagne. L'ESF, malgré la crise, a créé l'an dernier un fonds pour aider à financer les fameuses classes neige et montagne. 200 000 euros afin que toujours plus d'enfants puissent découvrir les joies de la montagne, hiver comme été.
Alors là, pour ceux qui aiment skier, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire « Ah, ça, quand même, ça nous a manqué quand même cette année, Jean-Marc Silva. » Je rappelle que vous êtes le directeur général de France Montagne, mais c'est important de dire qu'une partie de ces moniteurs est sur les pistes en ce moment, puisque jusqu'à la deuxième étoile, en tout cas dans les grandes stations, les enfants, par exemple, peuvent prendre des cours. Certains ont découvert le snowboard, puisque là, il ne faut pas monter très haut pour commencer à apprendre. Tout ça, ça fonctionne grâce aux moniteurs de l'ESF et les autres écoles, bien évidemment, qui sont présentes en station.
Bien sûr, hein, très important. L'ESF fait partie de nos membres fondateurs, avec les remontées mécaniques, les domaines skiables de France et les maires de station. Mais c'est la mobilisation chez les moniteurs de ski, justement, pour eux. Parce que cette clientèle-là, il ne faut pas la perdre. c'est pas parce qu'on n'a pas de remontée mécanique que la montagne s'arrête. Et donc, il y a vraiment ce rapport à la clientèle, ce service. Et les moniteurs, aujourd'hui, bah, ils ont un rôle important dans les activités comme le ski de randonnée, les sorties raquettes, le ski de fond. Et puis, aujourd'hui, avec les tapis.
Voilà, c'est
tapis
c'est
au
ça.
Sol, on peut aussi enseigner
pour
aux enfants.
Pour les petits, les débutants, en fait.
Donc, on a pu faire passer les fameuses récompenses.
Les oursons.
Les médailles.
Oursons,
Moi,
j'étais beaucoup, fier, vous savez, pour mon premier ourson et mon flocon. Hein.
Voilà. Et c'est important pour les enfants, donc ça, il faut que ça continue. Certaines stations ont même pu faire passer jusqu'à la deuxième étoile. Voilà, donc les moniteurs et les monitrices sont bien là sur le terrain. Et ils rassurent aussi, parce que ce territoire de montagne, il faut aussi l'expliquer.
Mais c'est quoi? C'est 10% des moniteurs globalement qui ont pu travailler cet hiver. Les autres, ce sont des indépendants. Ils sont indemnisés comment?
Alors, en fait, le chiffre d'affaires va être de 10%. Les moniteurs aujourd'hui vont être aidés par l'État, hein, puisque il nous manque notre outil de travail. Donc voilà, il faut, ça n'empêche pas effectivement de se mobiliser et puis d'accueillir, de renseigner et donner envie aux gens de revenir.
Est-ce que vous pensez qu'après cette saison si compliquée, l'année prochaine, il y a des stations qui vont mettre la clé sous la porte, qui ne rouvriront pas ?
On n'espère pas.
Mais c'est un vrai risque.
Mais c'est un vrai risque. Hein. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu économique. C'est 120 000 emplois directs. Vous savez, les stations de ski ont été créées pour garder les jeunes au pays, pour éviter l'exode rural. Donc aujourd'hui, il faut absolument maintenir. Et c'est un équilibre économique qui est fragile. Donc attention, il va falloir vraiment travailler sur la relance et puis montrer que cette montagne, elle a beaucoup d'atouts sur le côté santé, bien-être et bienfaits qu'elle peut l'apporter.
Et ça l'hiver, mais aussi l'été. Vous êtes plus en plus de monde qui vient aussi l'été. Et notamment cet été, vous aviez fait de très bons chiffres.
Alors, rendons à César ce qui lui appartient. La montagne estivale a été la première, a été découverte en été. C'est nos amis anglais qui sont venus gravir les premiers sommets, profiter des eaux chaudes en montagne ou dans les Pyrénées. Et après, avec le développement des sports d'hiver, c'est vrai que l'été a vécu un peu dans l'ombre de l'hiver. Et on a vu l'été dernier, avec un déconfinement mi-juin, on a fait la plus grosse fréquentation que la montagne n'ait jamais fait, avec un plus 5%, tout massif confondu. Et ça montre aussi cette appétence que peuvent avoir les gens pour la montagne et les valeurs de la montagne qu'on peut retrouver.
Et vous avez déjà des réservations pour cet été? Vous pensez que vous allez faire à nouveau des bons chiffres cet été?
Alors c'est traditionnellement la période où les gens réservent pour l'été, donc ça commence. Notre site internet, nous, est au même niveau que l'année dernière.
Oui.
Donc on espère bien avoir un bel été, et ça avec tout le long massif. Que ce soit les Vosges, le Jura, le Massif Central, les Pyrénées, les Alpes du Nord, les Alpes du Sud, la Corse. C'est collectivement aussi qu'on travaille ensemble avec Atout France pour promouvoir la montagne, tous ces massifs, parce qu'on a tellement de choses à offrir aux clients qu'on a envie que les gens viennent nous voir.
On est le lundi 1er mars. Est-ce que vous avez encore un tout petit espoir qu'on puisse skier quelques jours normalement d'ici à la fin de l'année, ou soyons honnêtes, c'est fini pour cette saison?
Alors, seuls les chiffres du Covid en décideront. Nous, on sera prêts si jamais il y avait une possibilité.
Donc, vous avez un mini-espoir.
Bien sûr, c'est ce qui nous fait toujours avancer. Les montagnards sont toujours positifs.
Pour nous accompagner aujourd'hui dans La France Bouge, Jean-Marc Silva, le directeur général de France Montagne. On vous garde à nos côtés jusqu'à 14h. Et là, maintenant, tout de suite, on va vous demander de mettre votre casquette de coach pour donner votre avis sur un projet entrepreneurial.
Europe 1, La France Bouge, Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Allez, on va descendre un petit peu de notre montagne pour les trophées européens La France Bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI. Je suis sûr qu'elle est déjà dans les starting blocks, elle aussi bien chaussée. Et devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour aujourd'hui, Jean-Marc Silva, qui est le directeur général de France Montagne.
Bienvenue, Maxime Deguine.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous avez 29 ans, vous êtes le cofondateur de La Marque en Moins. C'est donc une gamme de produits ménagers que vous qualifiez de transparente. Vous l'avez lancée il y a quasiment un an maintenant, en avril 2020, si je ne me trompe
pas.
C'est
exactement ça.
Alors, c'est quoi concrètement? Vous avez une minute pour nous convaincre. C'est à vous.
Alors, si La Marque en Moins existe, c'est pour inventer un nouveau modèle de consommation. Donc, un modèle de consommation qui soit viable pour les générations futures. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On a inventé une gamme de produits ménagers, dont des pastilles à vaisselle, des doses de lessive et autres nettoyants, qui ont la particularité de se débarrasser de tout ce qui est superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi pour nous? C'est nos 3 P. Un produit sain, une planète respectée, un prix juste. Un produit sain, c'est un produit qui est débarrassé des substances nocives. C'est un produit qui est sans pétrochimie. Une planète respectée, c'est un produit qui est fabriqué exclusivement en France, qui est conditionné dans des cartons 100% recyclés, 100% recyclables, pour mettre fin à ces gros bidons en plastique, vous savez, qui finissent dans nos océans. Et un prix juste, pour que ça soit accessible à un maximum de consommateurs. Donc tous nos produits sont exclusivement disponibles sur notre site, lamarqueenmoins.fr, et ce sont des produits qui sont concentrés, tout petits, donc qui sont livrés directement dans la boîte aux lettres.
Et ben voilà, bravo pour ce pitch. C'est un point important que vous ne dites pas, je trouve. Parce qu'avec votre autre cofondateur, vous travailliez avant dans la grande distribution et vous dites que vous avez eu également cette idée parce que vous avez vu l'envers du décor. Et donc, vous savez grosso modo ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que vous travailliez notamment à l'époque chez Mars.
Quand on travaille dans la grande distribution, c'est sûr qu'on se dit directement que si on veut attendre les projets 2030, 2035, 2040, nous, on s'est juste dit, c'est de la responsabilité de notre génération. C'est ma génération qui doit prendre les choses en main pour inventer ce nouveau modèle de consommation. Donc, on n'a pas voulu
attendre. Et créer un travail qui a du sens, ça, c'est aussi votre génération qui ressent ce besoin fortement. Maxime, comme chaque jour, Nathalie Carré, notre partenaire de CCI France, pointe les forces et les faiblesses de vos projets. Bonjour Nathalie.
Bonjour Carole, bonjour Maxime, bonjour Emmanuel.
Alors,
bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez du projet de Maxime, Nathalie ?
Alors déjà, trois points forts. D'abord, la transparence est réelle. Souvent c'est dit, mais là sur les prix, et sur, ce qui est intéressant, c'est sur les faiblesses actuelles. Vous dites, on sait qu'on n'est pas encore parfait, mais en tout cas, on y bosse et vous annoncez les chantiers à venir. Donc ça donne non seulement envie de dire, on a commencé et on va les suivre, et puis surtout, ça nous donne envie de vous aider, de dire de quoi vous auriez besoin pour aller jusqu'au bout de votre démarche. Deuxième point fort, le côté glossaire de la composition des produits. On sait donc maintenant ce qu'est un agent de surface non ionique, et on ressortira au prochain dîner. C'est quand même très rassurant. Enfin, moi, je m'engage pas là-dessus.
Vous avez des conversations passionnantes, en tout cas.
Oui, passionnantes.
On a hâte de dîner avec vous, Nathalie.
Au restaurant, comme ça, on est peinards. C'est quand même assez rassurant. Et puis, le packaging, il est très simple, mais finalement, il est très joli et il passe partout. Je mettrais un point amélioré, pousser la transparence encore plus loin, parce que ceux qu'il faut convaincre, ce n'est pas les convaincus, c'est ceux qui, les nouveaux écolos, les écolos modérés, et ce sont les plus nombreux. J'ai fait l'exercice ce matin, si on prend une marque écolo, qu'on fait l'effort de comparer, on trouve à peu près la même composition, puisque c'est suffisamment flou chez les voisins pour qu'on se dise que c'est à peu près la même chose, et à un prix plus élevé. Donc n'hésitez pas à comparer tous les avantages et les prix en mettant le nom de la marque. Parce que là, vous comparez, mais en mettant simplement marque de grande surface, marque machin. Faites-le jusqu'au bout avec des marques vertes très connues, parce que vous êtes sur Internet et un internaute peut partir très vite. Il faut vraiment le rassurer au maximum.
Alors Maxime, qu'est-ce que vous pensez des remarques de Nathalie ?
Déjà, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour les compliments et merci aussi pour les critiques qui permettent d'améliorer tout ça. Non, la transparence, c'est vraiment un élément clé, mais il faut faire ça étape par étape, ça prend du temps. Aujourd'hui, on travaille vraiment sur des projets pour pouvoir mesurer les émissions de CO2 exactement de nos produits, pouvoir dire, cette lessive émet tant de CO2. Mais il y a un problème, et vous l'avez bien mis en avant, c'est que quand on est les seuls à communiquer sur certains aspects, c'est très compliqué. Je vais me comparer à qui ? Je vais me comparer comment ? Et donc nous, ce qu'on veut, c'est certes apporter des meilleurs produits sur le marché, parce qu'on va dans une démarche positive, mais c'est extrêmement important aussi de pousser les autres marques, les autres projets, à aussi être beaucoup plus transparent pour pouvoir nous comparer ces produits aux autres. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément la capacité de pouvoir vous dire nos produits émettent tant de CO2 en moins qu'une autre marque parce que les autres ne le disent pas.
Et je pense qu'il y a aussi un point très très important que vous oubliez, si je peux me permettre. C'est-à-dire que moi, je crois des fois en achetant des trucs polluants que c'est plus efficace. Ça va dégraisser plus. Et sur votre site, je pense que vous expliquez peut-être pas assez qu'en enlevant ça, ça va nettoyer aussi bien. Ou alors,
Ça va nettoyer aussi bien ?
Les produits ménagers sont composés à 95% d'eau. Donc quand on se dit se débarrasser de l'inutile, le premier truc, c'est peut-être d'enlever l'eau. On va dans un magasin, on achète quoi ? De la flotte et du plastique. Franchement, c'est une aberration. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on raconte, on ne peut plus continuer comme ça. Donc dire les produits, est-ce qu'ils sont déjà aussi efficaces ? Quand on a une dose, qu'on garde juste les 8 millilitres d'un produit ménager, déjà, l'eau, ce n'est pas ce qui nettoie. Donc déjà, on peut enlever l'eau. Ensuite, il y a des substances qu'on peut remplacer, mais c'est extrêmement important, vous le dites, que ça soit efficace. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit les produits avec notre communauté. Là, je lance un nouveau produit, un produit seul. On envoie des échantillons à nos clients, une centaine de clients qui testent, qui font des retours. Tant qu'on n'a pas la note de 9 sur 10 en efficacité, on ne lance pas le produit.
Et ça, Nathalie Carré, je trouve qu'elle a raison là-dessus. Ça, ou alors, je l'ai raté sur votre site internet, pourtant je l'ai bien regardé. Je n'ai pas l'étape de construction de votre produit. Moi, ça m'aurait vachement rassuré, là, ce que vous venez de dire.
On a 10 mois.
Je sais.
On est des bébés et c'est extrêmement construit. Tout ça, il faut qu'on le mette en avant. Mais c'est pour ça qu'on a besoin qu'un maximum de gens nous rejoignent. Là, on vient juste de lancer la marque Ensemble, qui est la communauté de la marque en moins. Et avec la marque Ensemble, c'est avec ça qu'on fait la co-construction. Donc, on va avoir de plus en plus de monde et à force, on va améliorer le projet et communiquer sur ces points de plus en plus. C'est une excellente remarque.
Jean-Marc Silva, vous êtes donc le directeur général de France Montagne. Ça vous parle, ces produits-là ?
Bien sûr. Bravo Maxime pour cette initiative. Elle est importante, d'autant plus que la conscience écologique des gens est en plein éveil, est en plein développement. Et je crois que ça nous concerne tous, c'est ce que Maxime a dit, c'est quel héritage nous allons laisser à nos enfants et petits-enfants. Donc on a le souci de s'occuper aussi des territoires fragiles comme la montagne. Parce que la montagne, c'est aussi un territoire exposé.
Mais est-ce que le souci écologique arrive chez vous aussi un peu quand même ?
Bien sûr, c'est très important. Alors dans notre bilan carbone que nous avons fait, le ski, lui, pèse que pour 2%. Et dans ces 2%, 75% c'est le damage, et les domaines skiables de France travaillent à l'avenir sur des dameuses à hydrogène. Le gros problème à résoudre, c'est le transport. 56% du bilan carbone, c'est le transport des clients.
Qui viennent en voiture.
Donc développons le train, développons le covoiturage, développons
la voiture électrique,
tout ce qui
les
peut
bornes.
Être voilà, transport écologique.
Demandons à la SNCF de faire des billets moins chers aussi, voilà. Peut-être parler aussi.
Absolument.
Merci Maxime Deguin, vous êtes donc le cofondateur de La Marque en Moins, une gamme de produits ménagers radicalement transparente.
Nathalie Carré, à demain, et si vous aussi vous voulez, comme Maxime, venir présenter votre projet, une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidats ou de nos candidates en route pour les trophées Europe 1, La France Bouge.
Jean-Marc Silva, nous vous gardons encore un tout petit peu, vous êtes donc le directeur général de France Montagne, et c'est vous qui nous accompagnez aujourd'hui tout au long de La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge, Carole Ferry, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est déjà la dernière partie de votre émission et nous sommes toujours avec le directeur général de France Montagne, Jean-Marc Silva.
Et avec vous, François-Xavier Combes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur d'EasyBlue, c'est une start-up qui propose des assurances en ligne sur smartphone, notamment pour les entrepreneurs. Vous existez depuis 2 ans, vous avez 18 salariés. Si on a voulu vous appeler aujourd'hui, c'est que vous faites tout pour lutter contre l'isolement de vos salariés. Dès le début du deuxième confinement, vous avez mis en place des anges gardiens. Ça marche comment ?
Eh ben en fait, l'initiative des anges gardiens a été prise par Léa et Manon qui sont en alternance chez nous. Et en fait, c'est sous forme de jeu, chaque salarié de l'entreprise, par un tirage au sort, va être l'ange gardien d'un autre, va devoir veiller sur l'autre anonymement, mais par des petits gestes, des petites paroles, un coup de fil, un petit mail pour voir s'il va bien à titre personnel dans sa vie, dans ses loisirs, mais aussi dans son poste de travail, s'il n'a pas besoin d'un coup de main. Et à la fin d'une période de 2 mois, eh bien, on dévoile, on doit deviner qui était notre ange gardien et ça marche vraiment très bien.
Et quels sont les retours ? Ça a permis d'aider des salariés, je crois que chez vous, la moyenne d'âge est très faible. Je crois que nos équipes nous ont dit que c'était aux alentours de 24 ans et certains peuvent du coup être facilement isolés.
Oui, le gros risque du télétravail, c'est qu'on voit que ça pèse de plus en plus sur le moral. Il n'y a pas que des aspects techniques. Aujourd'hui, la technologie nous permet sans problème d'être en télétravail, mais le moral, c'est un facteur hyper important. Donc chez EasyBlue, on voit bien que toutes les initiatives qui peuvent être prises pour rendre la jauge de morale au bobo fixe est entreprise, et entreprise directement par les salariés eux-mêmes, pas seulement par des managers. Et ça, c'est très important de le dire. C'est que chez nous, on a quelqu'un qui s'appelle Philippe, qui est chargé du bien-être au travail, qui a lancé un petit questionnaire anonyme tous les mois, et on a des petites jauges pour estimer quel est le niveau et quel est le niveau d'alerte du moral des troupes. Et donc, ça nous permet de mettre en place des actions correctives, des petits rituels pour essayer de maintenir tout le monde, de rompre un peu l'isolement.
Et est-ce que vous sentez que vos anges gardiens sont contents de jouer leur rôle ?
Ah oui, alors au début, quand on a annoncé un petit peu cette idée-là, c'était un petit peu quelque chose de surprenant parce qu'on est obligé de sortir de sa zone de confort. On choisit pas la personne vers laquelle on a le plus d'affinité, c'est un peu le principe du jeu. Et surtout, on apprend à se connaître, à se découvrir, on sort de soi-même et c'est vraiment en fait une expérience hyper positive.
Ben écoutez, merci beaucoup François-Xavier Combes, directeur d'EasyBlue. Comment remotiver les salariés avec des anges gardiens ? C'est une excellente idée.
Merci également Jean-Marc Silva, le directeur général de France Montagne, de nous avoir accompagnés pendant toutes ces missions. Grâce à vous, on a pris un bon bol d'air et puis on a quand même réussi à être optimiste. On a vu que la montagne se prépare comme ça pour les années à venir grâce à toutes ces activités nouvelles.
Emmanuel, vous retrouvez demain Elisabeth Assayag. On pense très fort à elle aujourd'hui.
Oui. Et demain, on a de la chance puisqu'on va faire à nouveau une très belle émission puisqu'on va recevoir la célèbre chef Hélène Darroze. Elle vient d'avoir 3 étoiles à Londres. Il y a 2 femmes françaises maintenant triple étoilée au Guide Michelin.
Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.
C'était La France Bouge avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.